Permettez-moi de vous poser une question. Est-ce que vous croyez au régime? Ouais. C'est bien ce que je pensais. Ouais. Ça marche pas, hein? Ouais. Et ouais. Comme disait un humoriste, deux personnes se rencontrent et l'une demande à l'autre, « Tu as fait un régime ? » ?»« Oui. » Et alors, tu as perdu combien ? 3000 euros. C'était pas du poids. C'est ce que ça avait coûté, mais ça change rien. La transformation, c'est pas évident. Hein. Certains voudraient être différents. Et puis, ils pensent que, voilà, un coup de baguette magique, la bonne formule, la bonne pilule, et puis ça va marcher. Je vais être quelqu'un de différent. C'est un peu l'effet qu'on propose avec les régimes, souvent. Avant, après, d'ailleurs, il faudrait savoir. Si avant c'est pas après, après c'est pas avant, enfin si c'est pas un peu bidonné, maintenant avec Photoshop on fait beaucoup de choses aussi. Donc voilà, c'est un peu décevant j'imagine, des personnes qui se disent « chouette le changement, je sens que ça va marcher, puis ça marche pas ». Alors moi cet après-midi, je voudrais vous proposer une vraie transformation, parce que celle-ci elle est vraiment nécessaire. Et si vous en doutiez encore de savoir comment Dieu vous voit, on va regarder un petit peu dans l'Écriture, qu'est-ce que... des hommes nous ont enseigné concernant la réalité de ce qu'était leur vie loin de Dieu et ce que Dieu a fait pour eux. Alors, deux textes, le premier dans la deuxième épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 5, on va se servir de ça comme d'une base. Deuxième épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 5, verset 17. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17. Il est dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles, et tout cela vient de Dieu. Amen. Donc pour être transformé, vous l'avez compris, ce n'est pas un régime qu'il faut, c'est l'intervention de Dieu. Et dans le livre de Jérémie, le livre du prophète Jérémie, chapitre 29, et verset 11, transformation dans quel but ? Transformation pourquoi ? Là, vous en avez l'explication. Jérémie, chapitre 29, verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Amen. Voilà, quand quelqu'un a décidé de perdre du poids, il a vu une bonne formule, une bonne pub, il est plein d'espoir. Et puis 3 mois après, il est plein de désespoir, ça marche pas, je suis pas satisfait, je suis pas arrivé à mes fins. Je peux vous assurer que le programme de Dieu est très simple, et on fera pas plus simple d'ailleurs, et ce programme se résumera à cela, quitter une vie, et sans regret d'ailleurs, hein, faut pas le faire avec regret, quitter une vie, pour entrer dans une vie nouvelle, mourir à une ancienne vie et débuter une vie nouvelle. Ça, c'est possible cet après-midi. Et évidemment, il n'y a qu'avec Dieu qu'une telle chose est possible. Le seul moyen d'y goûter à tous ces projets merveilleux, puisque l'Écriture nous dit que Dieu a des projets pour nous. Vous vous rendez compte ? Projets de paix, non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Le seul moyen d'y goûter, c'est de s'engager. Tant qu'on ne le fera pas, tant qu'on ne s'engagera pas, ça ne marchera pas. Et la seule façon d'en profiter, bien évidemment, c'est de se lancer, de se lancer. Alors, j'ai choisi comme exemple tout ce que l'apôtre Paul dit de lui, parce qu'il va se mettre dans une généralité, et j'aime beaucoup ça parce qu'on a tous l'impression d'être des cas particuliers. C'est vrai que vous êtes un cas particulier, vous, hein. Mais on a tous l'impression d'être des cas particuliers, tellement à part, tellement différents, mais on entre dans une généralité quand même. Et sur le fond, on est tous les mêmes, on n'est pas différents, même si on n'a pas la même taille, même si on n'a pas la même couleur d'yeux, même si on n'a pas fait les mêmes études, on est quand même tous pareils. C'est-à-dire qu'on a tous le même passif, le même passé, et on s'en va tous dans la même direction, à moins qu'il y ait une transformation. Et c'est précisément ce que l'on va voir. Alors, quand l'apôtre Paul regarde un petit peu ce qu'a été sa vie, il y a des similitudes avec ce qu'on pourrait dire sur n'importe qui. On va lire quelques passages, il va y en avoir pas mal, mais Il note chacun quelque chose de particulier. Et il y a un mot qui reviendra dans tous ces passages. C'est le mot « autrefois ». C'est pour vous montrer qu'il y a eu un avant et il y a un après. C'était comme ça avant, autrefois. Voilà comment j'étais et maintenant voilà ce que je suis devenu. Donc, le premier texte se trouve dans le livre aux Galates, l'épître de Paul aux Galates, au chapitre 1er et au verset 13. Versets 13 et 14. Il dit ceci: « Vous avez su, en effet, quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme, comment je persécutais à outrance et ravageais l'Église de Dieu, et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de ma nation, étant animé d'un zèle excessif pour la tradition de mes pères. » Il va rendre ce témoignage devant un homme important, devant le roi Agrippa. Dans le livre des Actes, il redit un petit peu la même chose, je vous le lis. Il dit ceci au chapitre 26, au verset 9, « Pour moi, j'avais cru devoir agir vigoureusement contre le nom de Jésus de Nazareth, et c'est ce que j'ai fait à Jérusalem. J'ai jeté en prison plusieurs des saints, des croyants, ayant reçu ce pouvoir des principaux sacrificateurs, et quand on les mettait à mort, je joignais mon suffrage à celui des autres. Je les ai souvent châtiés dans toutes les synagogues, et je les forçais à blasphémer. Dans mes excès de fureur contre eux, je les persécutais, même jusque dans des villes étrangères. » Quand vous regardez ça, quand vous regardez cette description que Paul fait de lui, de sa vie d'avant, autrefois, voilà ce que j'étais. Vous êtes d'accord avec moi qu'on est en face d'un criminel. C'est juste un criminel. Il n'est pas moins que ça. C'est un homme hyper violent. Il parle de zèle excessif, mais il parle de ravager l'Église. Je ravageais à outrance. Il pourchassait les chrétiens où qu'ils se trouvent. Il les a jetés en prison. Il a joint son suffrage quand il y avait une condamnation à mort. Et Paul, finalement, c'est un cas d'école. Finalement, pour nous, c'est un cas d'école, parce que on s'aperçoit que l'endoctrinement religieux notamment, ça peut rendre fou quelqu'un. Ça vous rend fou quelqu'un. Depuis quelques jours, il y a une actualité qui surnage un petit peu au-dessus de d'autres actualités. C'est le témoignage d'une femme qui a écrit un bouquin et qui est restée 9 mois dans l'armée islamique, chez Daesh, et elle rend ce témoignage. Elle est belge, à visage découvert d'ailleurs. Elle a voulu raconter son histoire parce qu'elle veut éviter que le piège se referme sur d'autres. Elle veut éviter cela. C'est dramatique ce qu'elle a vécu, elle le dit elle-même, c'est dramatique ce qu'elle a fait, c'est dramatique ce qu'elle a vu, mais on comprend le pouvoir d'un endoctrinement, quel qu'il soit d'ailleurs, parce qu'on parle de religion, mais on peut parler de philosophie, on peut parler de système politique et autres. C'est de l'endoctrinement, mais ça vous rend fou quelqu'un. Et l'apôtre Paul était devenu, enfin il n'était pas l'apôtre Paul à l'époque, il n'était qu'un pharisien très zélé. C'était un homme qui était prêt à tout pour réussir. Élevé dans les plus grandes écoles, il a pris la bonne route à son idée. Il arrivera certainement tout en haut dans quelques temps. Alors pour arriver à ses fins, ben, il a fait tout ce qu'il pouvait dans des excès de fureur incontrôlables. Je me dis que c'est pas un cas exceptionnel, même si c'est un cas d'école, c'est pas un cas exceptionnel, parce que des hommes comme lui, des personnes comme lui, il en existe des centaines, des milliers encore aujourd'hui, pour pas dire des centaines de milliers. Qui pourrait les arrêter, ces gens-là, qui ont une idée dans la tête, qui sont totalement obtus, qui veulent pas changer d'avis, qui sont prêts à tout pour réussir, à tout pour écraser les autres, à tout pour éliminer les autres, et malheureusement, ça ne se voit que trop. Et quand on voit l'excès, le dynamisme qui l'habite, malheureusement, cette espèce de capacité que rien n'arrête à produire et à faire le mal, on se dit, mais qui peut arrêter de telles personnes ? L'histoire récente, en Europe, nous montre que personne a réussi à arrêter Adolf Hitler. Personne ne l'a arrêté. On a essayé de faire attentat à sa vie, on n'y est pas arrivé. Il aurait pu mourir à la Première Guerre mondiale, il a été gazé, ça n'a pas suffi. On est surpris, on est étonné de voir des personnes qui arrivent à faire autant de malheurs autour d'eux, mais qui les arrêtera? Et c'est un exemple, mais il y en a d'autres. On pourrait parler de la Serbie, ça a duré longtemps avec M. Milosevic, on pourrait parler de ce qui s'est passé dans pas mal de pays africains, des dictateurs, etc. On a l'impression que personne n'a le courage, personne n'arrive à les arrêter. Paul, Saul de Tarse, avait des lettres, il avait des courriers, il avait du pouvoir, il avait une autorité. Mais c'est un homme violent, c'est un criminel. Et des gens comme cela, je me dis qu'à un moment donné, il n'y a que Dieu qui peut les arrêter. J'ai l'impression qu'il n'y a que Dieu qui pourrait les arrêter. Et là, c'est exactement ce qui va se passer. Parce que quand il s'en va vers la ville de Damas avec des lettres qui lui donnent pouvoir, là encore, pour jeter en prison les disciples de ce qu'ils appelaient la nouvelle doctrine, le christianisme, il n'y a que Dieu qui a pu l'arrêter sur la route. Entre parenthèses, j'ai envie de vous dire qu'il n'y avait peut-être que Dieu qui voulait l'arrêter de la manière dont il l'a fait. Parce que certainement que d'autres auraient bien voulu l'arrêter en le tuant. Hein. Mais est-ce que ça aurait réglé le problème de cet homme-là? Je ne crois pas. Hein. Il fallait l'arrêter, mais lui proposer autre chose. Aujourd'hui, on est assez radical dans pas mal de problèmes dans certains pays. Il existe encore la peine de mort. Et on vous dit que le seul moyen d'arrêter ce genre de bonhomme, c'est de les tuer. Alors la peine de mort. Mais vous ne réglez pas son problème, vous ne réglez pas son éternité, vous ne réglez rien en faisant cela. Vous éliminez un danger public, mais il y en aura un autre, et un autre, et un autre, et un autre. Ça, c'est dramatique. Finalement, ce qu'il faut changer, ce n'est pas la société en éliminant ceux qui sont violents et criminels. Ce qu'il faut changer, ce sont les criminels eux-mêmes. Et c'est ça qui n'est pas en notre pouvoir et qui est complètement impossible, à part si Dieu fait quelque chose et on s'aperçoit que Dieu l'a fait pour cet homme. Maintenant, quand il regarde un petit peu ce qu'était le fond de sa vie, on va un petit peu plus loin. Dans l'Épître à Tite, il va rendre aussi ce témoignage, faisant une généralité bien évidemment, au chapitre 3, et il dit ceci. Rappelle-leur, au verset 1er, d'être soumis aux magistrats et aux autorités, d'obéir, d'être prêt à toute bonne œuvre, de ne médire de personne, d'être pacifique, modéré, plein de douceur envers tous les hommes. Ce qui ne semblait pas quelque chose d'assimilé, d'évident. Et voilà ce qu'il dit. Car nous aussi, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservi à toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, digne d'être haï et nous haïssant les uns les autres. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit, qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. Amen. Nous aussi, nous étions autrefois insensés, égarés. Je garde ces deux termes, insensés et égarés. La vie de Saul ressemble à la vie de millions d'autres, comme je le disais. Il a été asservi, c'est le texte qui le dit, à toute espèce de convoitise et de volupté. En langage plus concret, on appelle ça le péché. Esclave du péché. Aujourd'hui, ce n'est pas une chose inutile de parler de l'esclavage du péché. Il y a des gens qui sont esclaves du jeu. Le jeu, c'est quelque chose qui vous prend, mais qui peut vous prendre votre argent, votre paye, qui peut vous prendre la santé, qui peut tout vous prendre. Il y a quelque temps, on faisait référence au tiercé, au PMU. Avant que le PMU existe, c'était les courses de chevaux, le Grand Prix de l'Amérique, le tiercé. Et puis un beau jour, on a transformé ces endroits où on allait prendre des paris en ce qu'on a appelé le PMU. Et on interrogeait des gens dans les années, je crois que c'est les années 60 ou 70, quelque chose comme ça. On les interrogeait pour leur demander, alors, vous venez régulièrement jouer? Et des personnes donnaient ce témoignage. Oui, je viens régulièrement, mais c'est pour être avec mes amis au café. On profite de boire un verre ensemble, puis on discute. Et puis on joue aussi, on regarde la course, télé noir et blanc, hein, petite télé. Et puis on regarde. Et à un moment donné, ça m'a surpris parce que ils interrogent quelqu'un. Et le journaliste demande, et vous jouez combien? Et cette personne a dit, ben ça dépend. Ah, ça dépend. Et pourquoi ça dépend? Eh bien, ça dépend, parce que si la fois d'avant, on a gagné, alors on va jouer un peu plus. Voyez le système? Finalement, vous ne gagnez rien, parce qu'au bout du compte, vous aurez tout remisé. Hein, parce que vous jouez peu, mais vous perdez tant que vous ne gagnez pas. Et puis le jour où vous gagnez, vous dites, ah, j'ai gagné, donc je vais miser davantage pour espérer gagner davantage. Et puis finalement, vous perdez tout. Comme le disait quelqu'un, au casino, le seul gagnant, c'est le casino, hein, de toutes les manières. Donc, esclave, esclave d'un vice quelconque, esclave d'une passion. Certains vous diraient, c'est pas grand-chose. Mais regardez les mots associés, je les trouve très intéressants. Paul dit, j'étais égaré, mais j'étais insensé. En fait, il avait perdu le bon sens. C'est tellement précieux d'avoir du bon sens, n'est-ce pas? Le bon sens près de chez vous. Ça, c'était une publicité. Aujourd'hui, je ne sais plus si on peut le dire, le bon sens, où est-ce qu'il se trouve? Les gens vivent avec toutes sortes d'excès, pensant que, eh bien, ça peut satisfaire jusqu'au moment où on en est dominé par ses convoitises et toutes ces choses-là. Il est animé, le texte le dit, par des sentiments de haine, des sentiments destructeurs. À vivre ainsi, dans l'esclavage du péché, j'ai l'impression qu'on arrive vite au bout. À un moment donné, on est un petit peu coincé par cette vie-là, ça rapporte plus grand-chose. Et la fin est souvent plus rapide que prévu. On entend malheureusement trop souvent parler de drames. Derrière soi, en général, on laisse un sillon de larmes et de mort. C'est jamais bon. Quand on est esclave d'une passion quelconque, c'est quand même quelque chose qui est douloureux. Alors, s'il était possible cet après-midi que vous retrouviez le sens et le bon sens, ce serait quand même quelque chose de bien. L'apôtre Paul dit aux Éphésiens, en parlant toujours de ce qu'il était autrefois, il va donner une expression que l'on a stigmatisée aujourd'hui, mais qui dit bien ce qu'elle veut dire au chapitre 2 de sa lettre aux Éphésiens. Il dit ceci, c'est pourquoi, au verset 11, « C'est pourquoi, vous autrefois, païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis, et qui le sont en la chair par la main de l'homme, souvenez-vous que vous étiez, en ce temps-là, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ, car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi dans des ordonnances, dans ses prescriptions, afin de créer lui-même avec les deux un seul homme nouveau. Il a détruit l'inimitié, vous étiez ennemis, il a fait de vous un ami. C'est pourquoi vous autrefois, païens dans la chair, ennemis des plans de Dieu. C'est important de comprendre cela parce que, en fait, un païen à l'époque, ça dérive du mot paysan d'ailleurs, un païen à l'époque signifiait tous ceux qui n'étaient pas juifs. C'était des païens. Tous les autres, donc le peuple juif était à part, et tous les autres, c'était des païens, donc ils avaient d'autres croyances, d'autres religions, d'autres dieux, mais ils n'adoraient pas, ils ne connaissaient pas le vrai Dieu. C'est comme ça que ça se résumait. Hein. Aujourd'hui, païen, ça a gardé cette connotation. Quand on dit de quelqu'un que c'est un bon vivant, on a tendance à dire c'est un bon païen. Même ceux qui ne croient pas le disent. Hein. C'est un bon païen, lui. On sait ce que ça veut dire. C'est quelqu'un qui est, bien évidemment, bien loin des préceptes de Dieu, bien loin de ce que Dieu enseigne. Mais un païen, finalement, c'est quelqu'un qui est vendu au péché, c'est quelqu'un qui est bien malheureux. C'est quelqu'un qui est finalement capable, quelquefois même dans ses superstitions, dans ses croyances, capable d'actes qui sont totalement irréparables par absence de réflexion. Je voyais un court reportage sur un homme qui vit en Papouasie-Nouvelle-Guinée Et ça m'a interpellé parce que ça me rappelle un film que l'on a montré il y a quelque temps ici. Et cet homme était accompagné de villageois, de gens qui vivaient sur la partie côtière de la Papouasie. Et donc les papous, les fameux papous, et on discutait, un petit avion avait atterri sur une piste d'atterrissage, et ces photos me rappelaient quelque chose, un travail qui avait été fait par un missionnaire, Stanley Dale, dans les années 60, quand il avait décidé d'aller évangéliser cet endroit-là, et un peuple particulier, les fameux Yali, il s'est approché d'eux. Et le journaliste discutait avec cet homme qui était un blanc, qui n'était pas de cet endroit-là, et en discutant, et il pose la question, mais pourquoi vous êtes là? Et cet homme explique qu'il est missionnaire parmi ces gens-là. On est en 2016. Il est missionnaire avec pour ces gens-là. Et il leur explique que son propre père, alors il s'agit peut-être de l'enfant de l'homme dont je vous parle, son propre père avait été missionnaire auprès de ces gens-là. Et il explique, c'est quand même incroyable, il est dans un village à côté de papous, de gens qui pendant des siècles ont vécu dans des croyances totalement folles, violentes, insensées. Et cet homme est là pour leur parler de Dieu, pour leur raconter l'Évangile, pour partager le quotidien de ces gens-là. Et il raconte aux journalistes, mon père a été missionnaire avant moi. Ah bon? Et comment a-t-il travaillé? Bien, mon père a travaillé parmi ces peuples qui étaient des peuples cannibales à cette époque-là, et c'était l'objet le sujet du reportage du journaliste. Et il explique que son père est rentré un peu plus à l'intérieur du pays, un peu plus à l'intérieur des terres, et il s'est approché de quelques villages qui étaient encore un petit peu arriérés, qui n'avaient pas accepté l'Évangile, qui n'avaient jamais vu beaucoup d'hommes blancs, qui étaient un petit peu réticents. Et quand mon père a compris que les choses allaient mal, il s'est enfui du village, et les villageois l'ont pourchassé. Et les villageois l'ont encerclé, et les villageois l'ont frappé à mort, et certainement qu'ils l'ont mangé. Il dit ça à la caméra, le gars. Certainement qu'ils l'ont mangé. Et lui, il est venu comme missionnaire auprès de ces gens qui ont commis ce crime. Dans ces tribus-là, on avait l'habitude, et je ne sais pas si je vous l'avais raconté, mais on avait l'habitude d'adorer des dieux qui n'en étaient pas, évidemment, mais avec une violence inouïe. Et il y avait des endroits tout autour du village, des endroits qui étaient déclarés sacrés. Et dans ce cercle-là, si vous voulez, il ne fallait pas rentrer. Parce que celui qui rentrait à l'intérieur de ce cercle était condamné à mort. Et voici qu'un jour, un petit enfant de 2 ans, 2 ans et demi, il savait à peine marcher, est allé se promener en dehors du village et il est rentré à l'intérieur de ce cercle. Il a escaladé 3 pierres. Et pour lui, c'était pareil. D'un côté des pierres ou de l'autre, c'était pareil. Et quelqu'un l'a vu. Et de quelqu'un qui l'a vu a pris l'enfant. En hurlant, il a pris l'enfant, il l'a ramené au village et il a expliqué ce qui s'est passé. Et tout le village est sorti et les parents ont commencé à pleurer, à gémir. Et on a couru en dehors du village et on s'est approché d'une espèce de falaise où il y avait un torrent impétueux qui passait par là et on a jeté l'enfant. Condamné à mort. Qu'est-ce qu'il en savait, lui? Condamné à mort parce qu'il avait profané le lieu saint. Mais la chose la plus terrible, c'est qu'on vous dit que si l'enfant, parce qu'il est rentré, finalement, il est ressorti. Si l'enfant était resté à l'intérieur, on ne l'aurait jamais sacrifié. C'est parce qu'il en est ressorti. C'est un truc de fou. Pauvre gosse. Et ça, c'était ancré. Pendant des siècles, on a vécu comme ça. Vous imaginez quand l'Évangile a atteint ces peuples païens, la libération. Vous imaginez la délivrance, l'élévation sociale, l'élévation mentale. Parce que quand on vous jette votre enfant dans les cataras, dans les torrents, dans les tumultes des eaux, mais il y a de quoi devenir fou, hein ? Ben non, il n'y avait aucun cœur, il n'y avait aucune idée par rapport à cela, d'autant plus qu'on se mangeait les uns les autres pour prendre la force. On est capable de faire n'importe quoi parce qu'on est païen, parce qu'on ne connaît pas Dieu, et on est capable d'actes totalement irréparables par absence de conscience et de raisonnement, bien évidemment. L'homme s'est inventé des dieux qui lui ressemblent d'ailleurs. Quelqu'un disait, Dieu a fait l'homme à son image et l'homme le lui a bien rendu. C'est sûr. Quand on voit comment les choses se passent, c'est sûr. Alors il y a quelque chose certainement à ne pas oublier, c'est que l'être humain restera petit, cruel, méchant, tordu, colérique, dominateur et très oppressant. Mais c'est le païen. Le païen est ainsi fait. L'homme a cette culture du pouvoir et veut toujours dominer. Et c'est ce que Paul était. Paul le dira, malgré qu'il ait vécu dans le judaïsme et malgré qu'il pensait être dans ce qui était juste, il considéra que la justice, il ne la connaissait pas. Et autour de lui, c'était encore pire. Ses peuples étaient païens. Maintenant, il s'est considéré longtemps comme étranger et ennemi, forcément, du plan de Dieu. Dans les Colossiens, il est dit au chapitre 1er, et à partir du verset 21, « Et vous qui autrefois étiez étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair pour vous faire paraître devant lui saints et irrépréhensibles et sans reproche. Vous qui autrefois étiez étrangers et ennemis. » Un cœur sans Dieu, je crois que c'est un cœur qui s'égare. Une âme sans Dieu, c'est une âme qui se condamne en somme. Et qui se condamne à un exil qui est douloureux. Il y a des gens qui ont vécu l'exil et qui ne s'en sont jamais remis. On les a chassés, ils ne s'en sont jamais remis parce qu'ils étaient étrangers, parce qu'on les considérait comme des ennemis. Je ne suis pas bien sûr que tous ceux qui malheureusement ont parcouru l'Europe ces 3-4 dernières années, je ne suis pas sûr qu'ils finissent bien leur vie. Dans cet exil terrible, je ne suis pas sûr que, après qu'on les ait traités d'ennemis, après les avoir parqués, et ce n'est pas fini, je ne sais pas dans quel état ils vont être, comment ils vont se construire moralement, surtout les enfants et les plus jeunes, ça va être compliqué certainement. Mais j'ai envie de dire aujourd'hui, comment peut-on vivre sans Dieu? Je ne sais pas. Face au monde, face aux défis, face à tout ce qui arrive, comment peut-on vivre sans Dieu? Comment peut-on survivre même sans Dieu? Certains pourraient se poser la question. Alors on a besoin, me semble-t-il, de retrouver le contact. On a besoin certainement de rétablir la relation. Et comme dira l'apôtre Paul aux Éphésiens, vous avez été créés par Dieu. Et c'est peut-être pas un scoop ce que je vous dis, mais vous avez été créés pour Dieu. Par Dieu et pour Dieu. Par lui et pour lui. Finalement, tous les êtres humains ont été créés par Dieu. Mais tout le monde ne vit pas pour lui. Mais regardez en quel état est la planète. On a l'explication, certainement, à bien des malheurs et à bien des peines. Alors, la conclusion de tout ça, je la trouve dans les Éphésiens et dans 1 Pierre. Éphésiens, chapitre 5 et verset 8, il est dit ceci. « Autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. » Amen. « Car le fruit de la lumière, marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. » Et dans 1 Pierre, au chapitre 3 et au verset 19, 1 Pierre, chapitre 3, verset 19, à partir du verset 18, il est dit ceci, « Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour les injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison, qui autrefois avaient été incrédules, lorsque la patience de Dieu se prolongeait du temps au jour de Noé pendant la construction de l'arche. » Amen. Autrefois, certains ont été incrédules et autrefois, évidemment, ils étaient dans les ténèbres. Qu'est-ce que ça m'amène à vous dire? Qu'être incrédule ne rapporte rien de bon. Ça, c'est une évidence. Mais être incrédule, ça rapporte même beaucoup de mauvais. C'est pas juste pas du bon, c'est du très mauvais, être incrédule. Être incrédule, c'est refuser la main que Dieu nous tend. Et être incrédule nous maintient, si vous voulez, dans le couloir de la mort. On n'en sortira pas. Ceux qui sont condamnés à mort dans le couloir de la mort, dans quelques prisons de quelques États des États-Unis, peuvent y rester 20 ans. Mais au bout, sauf si le procès est en révision, mais au bout, c'est la mort. C'est le couloir de la mort. Ce n'est pas le couloir de la vie. C'est le couloir de la mort. Ça veut dire que tant qu'on reste incrédule, on est dans le couloir de la mort. Si on ne fait pas la paix avec Dieu, on est incrédule, parce qu'on ne veut pas. on reste dans le couloir de la mort. Si j'insiste là-dessus, c'est pour vous rappeler, parce que ce texte a porté quelquefois un petit peu à discussion, à polémique, et a eu du mal à être interprété. On s'est posé la question, qu'est-ce que ça signifie, à qui Jésus a été prêché ces fameux esprits en prison? De quoi parle-t-on? On s'est beaucoup posé la question. Et ce qui semble être commun à beaucoup de commentateurs, et ce qui semble le plus concret, le plus réel dans cette explication, c'est que quand Jésus est mort, il est resté dans le sépulcre 3 jours, 3 nuits. Qu'a-t-il fait pendant ces 3 jours, 3 nuits? Certains rattachent ce contexte d'un Pierre. Pendant ces quelques jours, il est descendu en enfer et il a proclamé à tous sa victoire sur le diable et l'enfer. Il a été prêché aux esprits en prison. Alors, il y en avait deux sortes. Ceux qui attendaient la consolation, parce que vous imaginez bien qu'avant que Christ meure et ressuscite d'entre les morts, eh bien, le ciel n'était pas ouvert. Alors, tous ceux qui mouraient dans la foi, mouraient, s'endormaient et attendaient la consolation. Et puis, la consolation est venue et Jésus a emmené avec lui tous ceux qui avaient cru en ce Messie qui allait venir et les délivrer du pouvoir du malin. Mais par contre, il est aussi allé rendre visite à ceux qui avaient été incrédules, c'est le texte, à ceux qui avaient été incrédules. Pas pour leur donner la foi, hein. Pas pour leur dire « Alors, vous croyez ou pas maintenant ? Maintenant, vous êtes aux portes de l'enfer, moi je suis ressuscité, vous voulez rester là ou vous voulez aller au ciel ?» Non, non, parce que tout le monde aurait dit « Je préfère m'en aller. Hein. » Non, il a juste été leur dire « Voyez, vous avez eu tort. » Ça a été promis, ça a été annoncé, vous l'avez refusé, tant pis pour vous. C'est tout. Quand je pense que certains imaginent qu'il y a une vie après la mort, ils ont raison. Hein. Mais certains pensent que l'enfer n'existe pas, que personne n'ira en enfer et que tout le monde ira au paradis. Ça, c'est une faute, ça, c'est une erreur. L'enfer existe. Alors, il me semble que si autrefois, et si jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à il y a une minute, vous étiez encore incrédule, je vous en supplie, sortez de l'incrédulité. Sinon, vous êtes dans le couloir de la mort. La finalité, ce sera la perdition éternelle. Et ce serait dommage. Du temps de Noé, ces gens ont eu des dizaines d'années pour accepter la grâce. Des dizaines d'années. Ils n'en ont pas voulu. Mais tant pis pour eux. Hein. Tant pis pour eux. Ce n'est pas une fois mort qu'ils pourront choisir. Jésus est venu confirmer à ces gens-là qu'ils ont été condamnés pour l'éternité et qu'il n'y avait pas de solution. Il n'y avait plus de solution. Par contre, nous qui sommes là, gloire à Dieu, il y a encore une solution cet après-midi. Parce que nous annonçons la croix, nous annonçons Jésus vivant et nous annonçons la grâce cet après-midi. Nous disons qu'il est possible d'être sauvé, nous disons qu'il est possible d'être pardonné. Et finalement, de tout temps, les ténèbres ont cherché à voiler la croix. Aujourd'hui, on en parle de moins en moins, moins on la porte, moins on en parle, et mieux le monde se porte, visiblement. Mais la croix, on a raison de l'annoncer, on a raison d'en parler, parce que derrière la croix, il y a la lumière de l'Évangile. Alors, le monde essaie de faire taire, le monde essaie de voiler cette lumière. De tout temps, les ténèbres ont cherché à voiler la croix, mais ne vous laissez pas endormir. Surtout, ne vous laissez pas endormir, parce qu'il y a quelque chose de particulier, c'est que quand vous arrivez dans une pièce qui est totalement noire, en pleine nuit, vous vous réveillez, il n'y a pas de réveil, il n'y a rien, donc c'est noir. Si vous avez peur de buter contre, je ne sais pas, une chaise, un meuble, etc., vous allez faire quoi? Allumer, non? Oui ou non? Vous allez allumer. Et le principe, c'est que la lumière chasse les ténèbres, non? Toujours comme ça que ça se passe. Par contre, vous pouvez être sûr que les ténèbres n'ont pas le pouvoir de chasser la lumière. Parce que si le soir arrive et que l'obscurité descend et que vous voulez voir clair, vous voulez avoir de la lumière, vous allumez la lumière. Et la nuit l'emporte pas sur la lumière. C'est impossible. Par contre, la lumière l'emporte toujours sur les ténèbres. On voit bien que le diable a essayé de voiler cette image de la croix, enténébrer le monde. Rendre le monde de plus en plus incrédule. Mais quand on annonce la croix, on allume la lumière. Quand on annonce la croix, on parle de cette vérité et la lumière a le pouvoir de chasser les ténèbres. Alors si je fais le point et si je résume, celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses deviennent nouvelles. Ça veut dire que vous ne serez plus violent, criminel, insensé, égaré, païen, étranger, ennemi, condamné à mort. Je comprends pourquoi Jérémie disait « Je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit Dieu, des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Là, on a toutes les garanties, tout ce qu'il nous faut pour découvrir la grâce. Alors, on va prier pendant quelques instants et je vous inviterai à vous incliner avec moi. Nous allons demander à Dieu sa grâce pour qu'il vous bénisse, pour qu'il nous bénisse, pour qu'il nous fasse du bien. Si vous êtes là dans le doute, pas trop sûr de ce que Dieu peut faire pour vous, pas trop sûr de ce que Dieu veut faire à votre égard, pas trop sûr de ce qu'il veut manifester dans vos cœurs, dans vos vies, alors on va prier. On va croire que Dieu va agir, on va croire qu'il va intervenir, qu'il va se manifester. On sait qu'il est puissant, on sait qu'il est bon, qu'il est capable d'agir. On lui fait confiance et on croit à sa puissance. Seigneur, merci de ta faveur, merci de ta grâce, merci de ta bonté. Merci de ce que tu peux faire dans les cœurs et dans les vies. Je te rends grâce pour ta parole qui peut conduire à la vie. Je te rends grâce pour ta parole qui peut transformer un cœur. Je te rends grâce parce que sans toi, il n'y aurait pas de liberté, il n'y aurait pas de vie. Mais par ta grâce, tu changes le mal en bien et tu donnes la liberté. Merci pour l'exemple de Paul qui a bien fait la différence entre avant et après. Il y a vraiment eu un avant et un après. Alors merci de ce que tu as fait pour lui. Merci de ce que tu as fait dans sa vie. Merci de ce que tu as fait dans son cœur. Merci de la délivrance que tu lui as accordée. Je prie que tu étendes ta main maintenant et que tu nous fasses grâce. Tu nous gardes dans ta paix, tu nous gardes en toi, tu nous gardes près de toi. Tu nous fais du bien, ô Dieu. Oui, nous comptons sur toi et nous te remercions pour ta fidélité. Donne à quelqu'un de saisir l'importance de la croix, l'importance de s'engager avec toi, l'importance de toucher du doigt la réalité de la foi, l'importance de renouer le contact avec toi. Je prie que quelqu'un le vive concrètement, réellement, et que sa vie soit totalement transformée. Fais-le, je t'en prie, au nom de Jésus. Amen.